Biotine, l'émission de vulgarisation scientifique de Graphite.
Je suis en train de chercher le bouton, je suis complètement perdu. Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour parler de l'actualité scientifique. Vous nous écoutez sur 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet avec la rediffusion de cette émission le mardi matin, bien sûr, à 10h. Nous sommes aujourd'hui le samedi 22 novembre. Il n'y a pas grand-chose au niveau de l'éphéméride d'un point de vue science et technique, mais on va quand même évoquer deux personnes. On va évoquer Louis Néel, qui est né un 22 novembre 1904. C'est un physicien français. Il s'intéresse aux propriétés magnétiques de la matière et il est notamment à l'origine des découvertes de l'antiferromagnétisme et du ferrimagnétisme pour lesquels il sera lauréat d'un prix Nobel de physique en 1970. En 1940, à l'entrée en guerre de la France contre l'Allemagne, il conduit des travaux pour protéger les navires contre les mines magnétiques, ce qui permet de sauver la vie de centaines de personnes. Louis Néel est aussi un acteur majeur dans la création à Grenoble d'un des plus grands centres scientifiques français, qui est la Presqu'île scientifique, où il implante notamment son laboratoire. Il crée un centre d'études nucléaires qui est affilié au CEA, le Centre d'études atomiques, et un premier laboratoire européen de recherche également. Il y en a d'autres qui suivront. Donc Louis Néel, qui est donc né un 22 novembre 1904. Il est mort en l'an 2000, donc il a quand même vécu pas mal, Louis Néel. Décès le 22 novembre 1944 d'Arthur Stanley Eddington, astrophysicien britannique, l'un des plus importants du début du XXe siècle. C'est lui qui met en évidence la limite d'Eddington, la limite qui porte son nom, qui correspond à la luminosité maximale que peut avoir une étoile d'une masse donnée sans commencer à perdre les couches supérieures de son atmosphère. Il est surtout connu pour ses travaux sur la théorie de la relativité et la flèche du temps. C'est par l'intermédiaire de l'un de ses articles que les scientifiques anglophones ont découvert la théorie de la relativité générale d'Einstein, parce que du fait de la Première Guerre mondiale, les travaux allemands n'étaient pas utilisés ou très très peu diffusés dans le reste du monde, et donc c'est grâce à Arthur Stanley Eddington qu'on a pu connaître dans les pays anglophones, découvrir cette théorie de la relativité générale d'Einstein. Voilà pour cette éphéméride et pour ces deux personnalités nées ou décédées un 22 novembre. Alors, il y avait pas mal d'actualités la semaine dernière que j'avais pas eu le temps d'évoquer dans cette émission, donc on va le faire aujourd'hui. Alors, j'ai tellement de choses que j'ai... En plus, il n'y a même pas nécessairement de fil conducteur, donc ça va être un petit peu comme ça, une succession d'articles où il n'y a pas nécessairement de cohérence, mais qui sont assez intéressants, parce que je pense à cet article que j'évoquais la semaine dernière en vous quittant, qui concernait Apple, où il parle d'un téléphone qui serait toujours connecté, même sans réseau. En fait, déjà en septembre dernier, Apple a présenté l'Apple Watch Ultra, c'est sa première montre avec une connexion satellite. Et c'est qu'une petite étape dans un projet bien plus ambitieux. Depuis 2022, l'iPhone peut se connecter à un satellite pour pouvoir lancer un SOS en l'absence de réseau mobile. Et l'année dernière, Apple a étendu ce service pour l'échange de SMS avec ses contacts. Mais le constructeur ne compte pas s'arrêter là. Apple travaillerait en fait sur de nombreuses nouvelles fonctionnalités. La première serait une API, une interface de programmation qui permettrait aux développeurs d'applications tierce d'intégrer la connectivité satellite. Apple compte aussi intégrer la connectivité par satellite au sein de son application Apple Maps. En fait, ça permettrait la navigation en dehors de tout réseau. La firme compte aussi ajouter la possibilité d'envoyer des photos par satellite en plus des SMS. Et en étant précurseur pour ce genre de fonctionnalité, Apple peut imposer ses propres normes et s'assurer d'une compatibilité parfaite avec ses appareils. Toutefois, la plus grosse nouveauté serait la 5G par satellite. Dès l'année prochaine, avec donc l'iPhone 18, Apple pourrait ajouter la prise en charge d'une connexion à Internet directement par satellite. SpaceX d'Elon Musk a déjà commencé un service de ce genre cette année, mais celui-ci se limite pour l'instant à une connexion 4G. Apple passe par d'autres satellites qui sont les satellites Globalstar. Ils sont bien plus limités et en fait, il est possible que la firme doive traiter directement directement avec Elon Musk parce que Musk a prévu de racheter Global Star, comme le suggèrent certaines rumeurs. Donc il y aurait peut-être quelque part dans ce domaine-là un rapprochement entre Apple et Elon Musk. Apple travaille aussi sur un autre problème, la réception du signal des satellites, parce qu'actuellement il faut être à l'extérieur et avoir une vue dégagée du ciel pour pouvoir capter directement le satellite. Et donc, le constructeur compte améliorer ce point afin de pouvoir rester connecté à l'intérieur des bâtiments ou alors lorsque le téléphone est dans une poche également. Toutefois, contrairement au SOS d'urgence par satellite, les fonctionnalités plus avancées ne seront pas gratuites. Hein. Il faudra très certainement souscrire un abonnement séparé avec un opérateur par satellite. Ce sera sûrement ce qui sera prévu. Ça ne sera pas gratuit, bien sûr. En tout cas, ça ne sera pas pris en compte dans votre forfait initial. Mais en tout cas, voilà, il y aurait la possibilité, même si on n'a pas de réseau, ben on se connecte directement au satellite. Et comme ça, on pourra continuer à discuter sur WhatsApp ou sur d'autres applications. Je trouve ça formidable. En tout cas, voilà, c'était un article que j'avais recensé sur Futura Science la semaine dernière et que je n'avais pas eu le temps d'évoquer. Donc, c'était l'occasion de le faire aujourd'hui lors de cette émission. D'autres choses, comme on parle un petit peu de satellite et qu'on parle d'espace, il y a deux choses qui concernent la conquête spatiale et qui concernent aussi les États-Unis. Alors, on va commencer par la conquête spatiale. Il y a une déclaration du porte-parole du programme spatial habité chinois qui, cette déclaration elle a eu lieu il y a 2-3 semaines à peu près. Il dit « Chaque programme de recherche et de développement qui travaille à envoyer une personne sur la Lune progresse doucement. » C'est une phrase qui n'est pas anodine parce qu'il ajoute ensuite « Notre but de pratiquer un atterrissage habité sur la Lune en 2030 reste fermement maintenu. » C'est pas anodin cette annonce, parce que côté américain, les efforts pour accélérer la mission Artemis 3 elles semblent difficiles. Ça repousse l'échéance à 2028 au plus tôt, ce qui paraît encore très ambitieux en vue de l'avancement du projet. Quoi qu'il en soit, la Chine a une nouvelle fois affiché ses ambitions lors d'une conférence dédiée à la présentation du nouvel équipage d'astronautes qui va rejoindre la station spatiale lors du prochain vol qui va être prévu. En tout cas, il y a 3 astronautes qui vont s'envoler pour Tiangong, qui est la station orbitale chinoise. Le plus jeune astronaute du pays, il a quand même 32 ans, c'est un ingénieur qui s'appelle Wu Fei, 32 ans à peine. En plus de tout cela, la mission doit aussi apporter un équipage composé de souris destinées à des expériences en apesanteur. C'est une première là aussi pour le secteur spatial chinois. Et à coup de missions de 6 mois chacune, eh bien les astronautes contribuent à enrichir le programme national tout en poursuivant l'amélioration de la station Tiangong. L'idée, c'est des voyages futurs sur la Lune, voire Mars. Côté américain, eh bien, ces progrès spectaculaires, ils inquiètent un peu. Non seulement les missions récentes de la Chine ont été couronnées de succès, on en a parlé dans cette émission récemment, et puis l'an dernier, la Chine a énormément communiqué sur les essais de ses futurs engins lunaires, à savoir le premier étage du lanceur qui s'appelle Long March 10 ou encore d'un module d'atterrissage et des tests, là encore, qui étaient réussis et qui marquent les avancées impressionnantes de la Chine dans cette course. Ce lanceur Long March 10, c'est un colosse de 92 mètres de haut qui n'a pas encore volé mais dont les premiers essais sont attendus pour 2027. 2027, c'est dans moins d'un an, donc c'est demain. Actuellement, l'architecture de la mission lunaire chinoise prévoit 2 lancements pour 2030. Le premier emporterait l'équipage dans sa capsule Mengzhou et le second pourrait emporter l'atterrisseur. Il faut ensuite que les 2 engins effectuent un rendez-vous orbital près de la Lune pour que les astronautes changent d'habitat et rejoignent ensuite l'ANU qui est le module d'atterrissage pour une descente sur la Lune. Et pour le retour sur Terre, eh bien, ils vont retourner à bord de Mengzhou, qui est Mengzhou, la capsule Mengzhou, pardon, qui vont leur permettre de revenir. C'est vraiment, ils sont en train de coiffer sur le poteau les Américains en ce moment. La NASA, elle revoit en fait ses plans en urgence devant les déboires du Starship de SpaceX. L'agence de la NASA a annoncé, lancé un nouvel appel d'offres pour trouver une architecture plus simple et plus réutilisable afin de retourner sur la Lune, ce qui n'a pas plu à Elon Musk, son entreprise, risquant alors de perdre son contrat après plusieurs années de travail. En parallèle, même si les équipes devaient rester mobilisées, eh bien, le shutdown qui a eu lieu aux États-Unis il y a quelques semaines ça enchaîne également ça a entraîné pas mal de retard pour la mission Habiter Artemis, avec laquelle des astronautes américains doivent se rendre en orbite autour de la Lune avant de revenir sur Terre au bout de quelques jours, mais sans poser le pied sur le satellite à cette occasion lunaire. Ils vont tourner autour, ils vont revenir. Et en tout cas, à cause du Shandong, ça a pris pas mal de retard. Donc d'un côté, il y a un Shandong qui bloque, en tout cas qui ralentit, qui freine les États-Unis. De l'autre, vous avez la Chine qui est en train d'avancer et de communiquer aussi sur ses prouesses technologiques. Donc c'est une guerre spatiale qui se lance et Washington qui commence à s'inquiéter, bien évidemment. Donc c'est assez intéressant de suivre cela, bien sûr. Allez, on va écouter un petit titre et puis on va continuer à parler des États-Unis avec les parcs, les réserves et les parcs nationaux qui sont en ce moment en très mauvais état au niveau des États-Unis. On écoute un petit titre, c'est le groupe Mavali sur l'antenne de Graphite. À tout de suite.
Et pour les licenciés,
des pépins.
Pour les infirmiers, pour les sans-papiers, pour le bal des ratés,
des pépins.
Mais pour les actionnaires, pour les publicitaires, des pépites.
Pero eso sí, desde el principio, los pobres no pueden vivir como lo quieren y nada jamás cambiará eso. Ni la voluntad, ni los sueños, ni las revoluciones. Pero es así, desde el principio, los pobres no pueden vivir como lo quieren y nada jamás cambiará eso.
Des pépins
pour tous les feignants, pour les manifestants et les immigrants.
Crève de faim
pour les Africains, pour les musiciens, pour les clandestins.
Des pépins,
mais pour l'armement et pour les influents, des pépites.
Aïe, aïe.
Des pépins, c'était ma valise sur l'antenne de Graphite.
Jean-Noël Moreau, Lutine, sur Graphite.
Il y en a 63 à travers les États-Unis, de la Californie à l'Alaska, en passant par le Colorado, le Tennessee. Ce sont les parcs nationaux qui sont désormais en danger après le Shandong qui a touché les États-Unis. Le Shandong le plus long de l'histoire américaine. L'arrêt brutal de l'activité de milliers de fonctionnaires à travers le pays a rendu la situation quelque peu chaotique pour les visiteurs. Il a été décidé de laisser les parcs ouverts la plupart du temps, mais avec un fonctionnement ralenti, puisque sur les quelques 15 000 employés employés à peu près, plus de 9000 ont été suspendus temporairement. Donc ça fait quand même pas mal de monde et cette situation a remis en cause les visites guidées mais aussi les services de collecte des déchets. Résultat, les parcs restaient le plus souvent accessibles malgré d'importants problèmes de gestion et un sentiment d'abandon généralisé. En fait, déjà durant le précédent Shutdown, c'était en 2018, il y a plusieurs parcs qui avaient signalé des problèmes de sécurité et des actes de vandalisme réalisés par des visiteurs qui savaient qu'ils n'étaient pas surveillés par une police qui est donc désormais absente. Mais le problème est encore plus profond puisque depuis des mois, bien avant le shutdown, le président américain Donald Trump avait réclamé une réduction drastique de l'activité de ces structures. Ainsi, ce sont environ 1000 personnes qui avaient déjà été licenciées à l'époque. Puis, l'administration avait mis en place une hausse des tarifs uniquement à destination des étrangers dans le but de favoriser les visiteurs américains. De plus, Donald Trump avait prouvé à maintes reprises son manque d'intérêt pour ces parcs nationaux en proposant de vendre ces territoires à des compagnies privées. L'idée, c'était de privilégier l'extraction d'énergies fossiles comme le gaz ou le pétrole. Et donc, dans ce chaos, les parcs nationaux s'organisent de manière individuelle. Ce sont les gestionnaires eux-mêmes qui décident de laisser le parc ou non ouvert. Sachant que même s'ils décident de fermer, le manque de personnel rend impossible une surveillance constante des très nombreux accès. Ce type de pratique non contrôlée ouvre la porte à d'importantes menaces pour les écosystèmes fragiles, qui sont censés être protégés du surtourisme et des dommages causés par la présence humaine. C'est un petit peu ce qui s'était produit pendant la période du Covid. Les parcs étaient une des seules possibilités de loisirs pour les habitants. Et donc, c'était un peu catastrophique. Au final, comme le détaille le site American Progress, les parcs nationaux durant le shutdown commencent à ressembler sérieusement à ce que voulait en faire Trump s'il n'y avait pas eu de fermeture. Cela signifie une baisse drastique des effectifs et un service mal géré, une réduction des programmes de conservation, du vandalisme sur les sites historiques ou d'intérêt archéologique, des abus plus importants de la part des entreprises à la recherche de profits ou encore une réduction des mesures qui visent à prévenir les incendies. N'en jetez plus, la coupe est pleine. La recherche scientifique, elle est également menacée en fait. Elle est interrompue actuellement en ce qui concerne la surveillance des terres, de l'eau et de la vie sauvage, tandis que le président Trump avait réclamé un arrêt pur et simple de ses activités qui étaient jugée coûteuse et inutile. Pire, les parcs nationaux mettraient, vont mettre des semaines ou des mois à se remettre d'une si longue fermeture. Donc voilà, c'est l'un des joyaux naturels du pays qui est totalement laissé à l'abandon par le gouvernement. Et donc, il était important d'en parler. En tout cas, c'était un article de Futura Science qui évoquait cela. Futura Science qui évoque également un autre article assez intéressant. Et là, on va revenir un petit peu plus à une réalité quotidienne qui est celle de nos animaux de compagnie, et notamment des chats. Il y a une équipe de chercheurs australiens qui avait publié, c'était fin 2023, une analyse totalement révolutionnaire dans une revue qui s'appelle Schizophrenia Bulletin. Tiens, Schizophrenia Bulletin, on comprend schizophrénie. Cette étude, elle remet en question notre perception des chats domestiques. En fait, cette étude, elle suggère un lien potentiel entre leur présence dans un foyer et un risque accru de développer des troubles schizophrènes. Bien que cette découverte soulève de nombreuses interrogations, elle ouvre également de nouvelles perspectives sur les facteurs environnementaux qui pourraient avoir une influence sur notre santé mentale. Au cœur de cette énigme se trouve un parasite microscopique qui s'appelle Toxoplasma gondii, un parasite souvent associé aux chats. Ce micro-organisme, généralement inoffensif pour la plupart des gens, pourrait jouer un rôle insoupçonné dans le développement de troubles mentaux. Alors, quelques points clés à retenir. Ce parasite peut se transmettre par la viande peu cuite, par l'eau contaminée ou le contact avec des chats qui seraient infectés. Il y a environ 40 millions d'Américains qui seraient porteurs du parasite, souvent sans symptômes. Et enfin, une fois dans l'organisme, ce parasite, Toxoplasma gondii, peut infiltrer le système nerveux central et avoir une influence sur les neurotransmetteurs. Donc le docteur John McGrath et son équipe qui ont travaillé sur ce sujet-là, ils ont analysé des études qui sont menées depuis 1995. C'était une date à laquelle l'hypothèse d'un lien entre les chats et la schizophrénie a été proposée exposés pour la première fois, donc à 30 ans, et leurs résultats suggèrent que les personnes exposées aux chats ont environ deux fois plus de risques de développer des troubles schizophrènes. Et l'étude australienne elle met en lumière une corrélation un petit peu intrigante, mais il est essentiel de noter que la corrélation n'implique pas la causalité. Il faut bien être clair sur ce sujet-là. Cette étude, elle implique à peu près 350 étudiants en psychologie et cette étude n'a pas trouvé de lien direct entre la possession d'un chat et le fait d'avoir des symptômes de schizophrénie. Toutefois, elle a révélé que les personnes ayant été mordues par un chat présentaient des scores plus élevés sur certaines échelles psychologiques. Donc si ce parasite Toxoplasma gondii reste le principal suspect, il y a d'autres facteurs qui pourraient expliquer cette association mystérieuse. Des chercheurs ont suggéré que d'autres pathogènes pourraient également jouer un rôle, notamment une bactérie qui est présente dans la salive des chats qui s'appelle Pasteurella multoxida. Cette bactérie pourrait avoir une influence sur certains aspects de notre psychologie. Il est donc central de souligner que cette étude ne doit pas conduire à une panique qui serait totalement injustifiée. Les auteurs de l'étude appellent même, eux, à la prudence et à la réalisation de recherches supplémentaires de haute qualité. Déjà, ils recommandent des études basées sur des échantillons représentatifs beaucoup plus larges. Là, on est sur 350 personnes. C'est pas énorme quand on fait une étude sur cela. Avoir une meilleure compréhension des mécanismes potentiels qui sont en jeu et avoir aussi l'exploration d'autres facteurs environnementaux qui pourront avoir une influence sur la santé mentale. C'est donc une étude assez intéressante, assez fascinante, qui ouvre de nouvelles perspectives sur les interactions complexes entre notre environnement, nos animaux de compagnie et notre santé mentale. Bien que de nombreuses questions restent sans réponse, elle souligne l'importance de poursuivre les recherches dans ce domaine intrigant de la science médicale. Mais voilà, il y aurait peut-être un lien mystérieux entre la possession de chats et la schizophrénie, selon donc cette étude de chercheurs australiens qui avait été donc diffusée il y a quelques temps, mais que Futura a suggéré de remettre un petit peu en avant pour essayer de, bah voilà, de voir un petit peu ce qu'il en est. Il y a eu une déclaration assez intéressante de Geoffrey Hinton. Il est lauréat du prix Nobel de physique en 2024. Et sa déclaration, elle ajoute un peu une grosse touche de noirceur à ce futur dystopique en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Dans une interview qui était accordée à Bloomberg, Geoffrey Hinton, que l'on considère un petit peu comme l'un des parrains des intelligences artificielles, il a évoqué les investissements colossaux dans le développement des IA. Ce sont des sommes délirantes, comme dernièrement les 1400 milliards de dollars qui ont été engagés par OpenAI, des sommes délirantes qui sont investies malgré une absence totale de profit. En fait, Geoffrey Hinton considère que selon les critères d'investissement classiques, l'intelligence artificielle devrait être un paria économiquement parlant. Et pour que ces sommes colossales puissent devenir un jour rentables, selon donc Geoffrey Hinton, il faudrait que le travail humain soit tout bonnement remplacé par les intelligences artificielles. Autrement dit, le gouffre financier totalement irrationnel pour l'intelligence artificielle cache en réalité l'espoir que cette technologie inaugurera une nouvelle ère de développement social, rendant les travailleurs totalement inutiles. Le scénario est encore pire que celui que nous avions imaginé. Sans avoir à débourser des salaires, les propriétaires des moyens de production pourraient augmenter de façon considérable leurs profits. L'intelligence artificielle viendrait alors résoudre les freins du capitalisme en libérant la croissance exponentielle. Plus besoin de débourser de l'argent pour payer de la main-d'œuvre qualifiée. C'est à partir de ce moment que les sociétés de développement des intelligences artificielles deviendront rentables. Et comme souligne le chercheur, que Musk va encore devenir plus riche quand tout le monde va perdre son emploi. Ce serait une révolution funeste, bien sûr, alors qu'à l'issue de l'époque féodale, l'économie de marché a toujours reposé sur l'exploitation du travail humain et elle n'a jamais fonctionné sans celui-ci. Et bien là, ça explique pourquoi tout le monde finance à perte, de façon indécente, les intelligences artificielles. Un retour sur investissement est finalement attendu à terme, mais il ne sera pas mis à profit des travailleurs. Alors, il y a un hic quand même, parce qu'en supprimant le travail et donc les rémunérations, qui pourra acheter les produits manufacturés par des intelligences artificielles et des robots? Ça, c'est une question. Pour l'instant, on n'a pas de réponse. En attendant l'arrivée de cette dystopie peu reluisante, Geoffrey Hinton considère qu'il est encore temps d'agir et il préconise de freiner radicalement le financement des intelligences artificielles, car elles vont trop vite au risque de surpasser, de dominer leurs créateurs. Malheureusement, ce n'est pas nécessairement encore la tendance du moment. En tout cas, voilà, c'était un article, c'était une déclaration, une interview qui a beaucoup fait parler, parce que celui qu'on appelle un petit peu, enfin que l'on considère comme le parrain des intelligences artificielles, avoir un tel discours en disant attention, ça va totalement remplacer le travail humain, c'est pour ça qu'il y a des sommes colossales qui sont investies dedans, c'est voilà, quelque chose qui prête à débat, bien sûr, qui prête à réfléchir, bien évidemment. Allez, on écoute un petit peu de musique. Et on va continuer à feuilleter la revue presse de l'actualité scientifique. Vous êtes bien sur Graphite 94.9 et graphite.net. Pour ceux qui nous écoutent sur Internet, je rappelle également que vous nous écoutez le mardi matin pour la rediffusion sur Graphite. À tout de suite. Happy Camper, c'était Wellandsky sur l'antenne de Graphite.
Biotine, Jean-Noël Moreau.
Allez, on va parler de des PME françaises et notamment du baromètre national de la maturité cyber des TPE-PME. Alors, c'est un bilan globalement contrasté, mais ce deuxième baromètre reconnaît quelques progrès. Alors, point positif, c'est une prise de conscience massive des dirigeants d'entreprise qui se dessine. C'est-à-dire, près de 6 patrons de PME sur 10 estiment bénéficier d'un bon niveau de protection cyber, un taux qui atteignait à peine 40% l'année passée. Donc là, on est plutôt sur quelque chose d'un petit peu plus positif, une réussite qui est liée à un recours de plus en plus massif aux dispositifs de sécurité qui connaissent une croissance continue. La politique de la double authentification équipe désormais plus de 25% des PME-TPE, tandis qu'un quart d'entre elles se sont dotées de procédures de réaction aux cyberattaques. Les solutions de gestion des mots de passe, quant à elles, deviennent peu à peu la norme. Mais en matière budgétaire, les efforts restent modestes. Les investissements dédiés à la cybersécurité peinent ainsi à dépenser les 2000 euros. Elle est d'ailleurs dans bien des organisations une variable d'ajustement budgétaire, ce qui est un mauvais calcul, selon Samuel Durand, qui rappelle qu'une cyberattaque coûterait en moyenne 50 000 euros à une PME et surtout risque d'entraîner une perte définitive de données, une paralysie complète de l'activité. Une tendance qui pourrait cependant évoluer. Il y a 15% des PME qui souhaitent dans les années à venir revoir leur budget cybersécurité à la hausse. Pourtant, malgré ces signaux encourageants, la vulnérabilité, elle reste systémique. 8 entreprises sur 10 n'ont pas de plan de continuité d'activité. La moitié d'entre elles n'ont jamais testé leur sauvegarde. Ce qui est insuffisant dans un contexte où les acteurs économiques semblent de plus en plus visés. Dans son dernier panorama de la cybermenace, l'ANSSI, qui est donc l'Agence nationale de sécurité informatique, a ainsi recensé près de 4400 incidents. C'est une hausse de 15% à un an. C'est quand même assez important. Chez les dirigeants, la cybermenace s'est même imposée comme la première inquiétude des entreprises, outrepassant les tensions économiques internationales et la guerre douanière larvée entre l'Europe et les États-Unis. Parmi les craintes associées à une cyberattaque, c'est le vol de données, les répercussions financières, l'interruption d'activité qui occupe le podium des facteurs de risque. Chez les grands groupes français, c'est un constat similaire qui semble malheureusement se dessiner. Même s'ils bénéficient d'une politique cyber plus structurée, de moyens techniques et budgétaires élargis, la force économique comme la notoriété d'une entreprise ne protège pas des attaques cyber. Il y a une étude qui a été menée l'année dernière par Proofpoint, qui est un acteur de la filière, qui relevait que plus de la moitié des grandes organisations françaises accusaient un retard en matière de cybersécurité. Plusieurs grands groupes français en ont d'ailleurs fait récemment les frais. Il y a une entreprise de messagerie Discord qui est très populaire qui a reconnu que l'un de ses sous-traitants avait été exposé à une fuite massive de données, ce qui concerne environ 70 000 de ses utilisateurs. En août dernier, c'est le géant de la grande distribution Auchan qui, pour la seconde fois en un an, a constaté le vol de données de centaines de milliers de ses clients dotés d'un compte de fidélité. Cet été, il y a des actes de cyber-malveillance similaires qui ont aussi touché des grands acteurs des télécommunications comme Bouygues Télécom. Le niveau de cybersécurité est souvent de très haut niveau aux sièges sociaux, mais certaines filiales des fournisseurs ou des prestataires de ces grands groupes restent encore à la peine, et ce, sans compter les failles humaines qui restent encore trop facilement exploité, ainsi que, c'est ce que rapportent plusieurs rapports qui pointent un manque persistant de formation des salariés de ces entreprises. C'est une montée à la fois des périls, une hausse des vulnérabilités dont ont pleinement conscience les acteurs de la cybersécurité. La filière française, elle est depuis plusieurs années particulièrement dynamique. Le marché devrait dépasser les 10 milliards d'euros d'ici 5 ans, tandis que le nombre de professionnels est en croissance continue malgré des tensions de recrutement endémiques. Et puis il y a un mouvement qui répond aussi à des contraintes réglementaires toujours plus fortes, notamment impulsées au niveau européen. En bref, l'industrie de la sécurité numérique, elle s'adapte. Il y a un changement de paradigme dans la filière cyber, c'est-à-dire que la cybersécurité, elle est désormais plus que la prévention, elle intègre la reprise d'activité et la restauration rapide des données. Les acteurs publics tentent aussi de mobiliser les acteurs économiques. Et en septembre, eh bien, l'ANSSI, l'agence nationale qui est un peu l'agence pilote de l'expertise française dans le domaine cyber, elle a organisé... Rempart 25, en fait, l'idée, c'est de permettre à plusieurs centaines d'organisations de tester leur capacité de cyber-résilience dans un scénario catastrophe à très grande échelle. Une ambiance en forme de veillée d'armes, alors que les risques sont encore dans les années à venir appelés à se multiplier. Voilà, en termes de cyber-résilience, les PME françaises sont toujours vulnérables. Et c'est une prise de conscience. Maintenant, il va falloir avoir des actions concrètes à mettre en place, bien évidemment. Alors, on va parler des influenceurs. J'ai un chat dans la gorge, pardon. Excusez-moi, je vais y arriver. Des influenceurs, alors, parfois la science prouve que ce que disent certains influenceurs est vrai. Et là, c'est le cas, par exemple, en ce qui concerne les plaies et les boutons disgracieux, l'idée qu'ils laissent des cicatrices sur votre peau également. Donc tout cela, on se dit, on serait bien tenté de suivre un petit peu les conseils d'un influenceur beauté, parce que il y en a un, il dit, la dernière vidéo qu'il a mise en ligne, recommandait d'utiliser de l'huile essentielle de romarin pour améliorer la cicatrisation. On a des doutes. Comment savoir si ce traitement est vraiment efficace? Eh bien, c'est cette question que se sont posées Yang-Yi Pang et Emmanuel Rapp-Dreyes, qui sont deux étudiants de l'université de Pennsylvanie aux États-Unis. Ils vous ont voulu répondre à cette question de savoir si l'huile essentielle de romarin permet d'améliorer la cicatrisation. Et donc, ils ont visionné sur les réseaux sociaux des vidéos qui vantaient les bienfaits pour la peau de ces sérums à base d'extrait de romarin, des sérums féminins maison, et des produits aussi qui contiennent du romarin. Ils ont sollicité l'avis de leur professeur de dermatologie qui s'appelle Thomas Long pour bénéficier de son expertise. Parce que ce dernier n'avait pas la réponse, et bien le professeur et les deux étudiants, ils ont décidé d'analyser le romarin afin de déterminer s'il contient vraiment des substances susceptibles d'améliorer la cicatrisation de la peau. Alors ils expliquent, là nous avons émis l'hypothèse qu'il y avait probablement quelque chose de vrai derrière ce battage médiatique, car le romarin contient de nombreux antioxydants. C'est ce qu'ils expliquent notamment sur le site de l'Université de Pennsylvanie. Mais nous savions que pour vraiment découvrir son potentiel, nous devions prouver ses propriétés curatives et découvrir comment exactement il facilitait la cicatrisation. Et donc, ils ont analysé la littérature scientifique. Ils ont découvert l'existence dans la peau d'un récepteur. Et selon les études, il est présent dans les neurones et les cellules cutanées, donc les cellules au niveau de la peau, et ce récepteur jouerait un rôle essentiel dans la formation et le maintien des barrières de la peau, en intervenant notamment dans la stimulation de la cicatrisation. Et donc, pour savoir si ce récepteur était impliqué dans les effets du romarin, ils ont concevoir une crème à base d'acide carnosique, qui est un antioxydant présent naturellement et en grande quantité dans le romarin. Et quand ils l'ont testé sur des souris utilisées comme modèle pour étudier les processus de cicatrisation, et bien les scientifiques ont constaté que cette crème atténuait la fibrose, qui est un processus qui se produit en cas de plaie et qui, en perturbant l'architecture et les fonctions de la peau, peut entraîner l'apparition de marques permanentes. Et donc, dans leur étude, qui a été publiée dans la revue JIC Insight, et bien ils expliquent que cet acide qu'ils ont utilisé, l'acide carnosique, accélère bien la cicatrisation des plaies des souris, ainsi que la restauration des follicules pileux, des glandes sébacées et des cartilages. Mais quand les chercheurs ont appliqué la crème sur des souris qui n'exprimaient pas ce fameux récepteur, ils ont constaté que la crème n'avait plus aucun effet. Il semble donc que ce fameux acide carnosique exerce bien ses effets cicatrisants en activant ce fameux récepteur. Et ces résultats suggèrent donc bien que l'extrait de romarin en application sur la peau est un traitement efficace pour améliorer la réparation cutanée. Nous avons également identifié d'autres herbes telles que le thym et l'origan qui peuvent également activer ce fameux récepteur. Mais le romarin s'est distingué par sa puissance et sa sécurité. Il y a eu d'autres ingrédients naturels tels que l'huile de moutarde. Alors, l'huile de moutarde, je ne sais pas ce que c'était. Ou un médicament qui s'appelle imiquidone, qui est un modificateur de la réponse immunitaire. Eh bien, il y a d'autres ingrédients qui sont sont également connus pour stimuler ce fameux récepteur, mais contrairement au romarin, ils peuvent provoquer des irritations et des inflammations, ce qui est bon à savoir. Donc voilà, effectivement, il y a des influenceurs qui disaient que le romarin pouvait permettre d'améliorer la cicatrisation. Eh bien, c'est ce professeur et ses deux étudiants, ils ont fait les tests, ils ont mis en place le protocole expérimental et les résultats semblent effectivement prouver que c'est bien le cas. Eh bien, c'est tant mieux. Bravo la science qui nous prouve tout ce que l'on peut parfois écouter sur les réseaux sociaux. En fait, l'idée, elle est là, c'est qu'on écoute tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Quand on dit tout et n'importe quoi, c'est qu'il peut y avoir aussi des choses vraies. Mais au bout d'un moment, on ne sait plus faire le vrai du faux. Donc là, voilà, la science, en général, vous apporte la bonne réponse. On écoute un dernier titre et puis on va bientôt se quitter sur l'antenne de Graphite. Goodbye Sunshine, c'était The Mysterians sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite. La rediffusion le mardi matin à 10h. Le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et bien sûr graphite.net sur internet en direct ou en différé parce que vous avez tous les podcasts de toutes les émissions de Graphite sur graphite.net bien sûr.
Biotine, Jean-Noël Moreau.
Eh bien, avant de nous quitter, comment parler des réseaux sociaux? Je me souviens que j'avais identifié cet article de Futura Science. Alors, Futura Science, ils ont changé leur interface de ce site internet, et je trouve qu'elle est encore mieux qu'avant. Donc, c'était déjà un site qui est vraiment très intéressant pour l'actualité scientifique. Je vais y arriver. Donc, je pioche très très souvent dans Futura Science les articles que j'évoque à l'antenne. Et là, ils ont modifié il y a 15 jours à peu près leur interface. Elle est vraiment très intuitive, très intéressante, très agréable à regarder, ce que c'est vraiment un facteur à prendre en considération. Je vous incite à feuilleter les revues de vulgarisation scientifique, Sciences et Avenir, Sciences et Vie, de consulter des sites internet également sur ces sujets-là, parce que ça vous permet d'avoir aussi une capacité de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans notre monde, parce que ce qui se passe au niveau de la recherche scientifique, dans tous les domaines bien évidemment, cela nous concerne. Et donc, l'une des difficultés que l'on a, c'est d'avoir l'accès à cette information et de comprendre aussi cette information. Donc ces sites-là et ces revues, en tout cas ces supports, sont vraiment bien faits, sont vraiment intéressants. Et je ne peux que vous inciter à les consulter régulièrement. Et donc parmi ces sites, il y a Futura Science qui proposait un article sur les réseaux sociaux. Et comme on venait de parler de ces fameux influenceurs, je trouvais intéressant d'essayer d'avoir une espèce de transition peut-être un petit peu plus pertinente que parfois je n'arrive pas à avoir. Donc l'article parle de toute cette génération piégée éventuellement par les réseaux sociaux qui agissent sur la santé mentale des jeunes, les troubles alimentaires, le corps, l'identité, le genre. Sur les réseaux sociaux, chaque sujet intime devient un thème de débat public. Si ces discours permettent de sensibiliser à des enjeux de santé et de société, ils peuvent aussi inciter à une autosurveillance source de mal-être. Selon l'OMS, Organisation Mondiale de la Santé, près d'un jeune sur cinq souffre aujourd'hui d'un trouble mental. L'anxiété, les troubles alimentaires, le sentiment d'isolement, l'épuisement émotionnel. Les demandes d'aide, elles explosent. En parallèle, le temps passé sur les réseaux sociaux ne cesse de croître. Les 15-24 ans y consacrent plus de 3h30 par jour en moyenne. Cette génération n'est pas seulement la plus connectée, elle est aussi la plus exposée à des discours permanents sur la santé mentale, le corps, l'identité, la performance. Cette exposition continue redéfinit la manière dont les jeunes perçoivent leurs émotions, interprètent leurs comportements, évaluent leur normalité entre guillemets. Sur les réseaux sociaux, chaque sujet intime devient un thème de débat public. L'identité sexuelle, le genre, le TDAH, les troubles de comportement, les troubles alimentaires, la dyslexie, le stress, les normes physiques, ces conversations, parfois lancées dans une intention bienveillante de sensibilisation, finissent parfois par nourrir une hyper-conscience de soi. Les jeunes y apprennent jour après jour à se scruter, à se diagnostiquer, mais surtout à se comparer. Chaque émotion devient suspecte. Est-ce que je suis stressé? Est-ce que je suis hypersensible? Chaque écart par rapport aux normes visibles sur les réseaux sociaux devient un motif d'inquiétude, et cette peur permanente à propos de soi-même, elle crée un terrain fertile pour le mal-être. Les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas nécessairement plus stressés biologiquement que les générations précédentes. Ils ont surtout appris à avoir peur d'être stressés, selon Sonia Lupien, qui est chercheuse en neurosciences. Autrement dit, c'est la génération négative du stress qui en augmente l'intensité. Les recherches, elles soulignent que les réseaux sociaux agissent comme une caisse de résonance du mal-être, en véhiculant en continu des messages alarmistes selon lesquels le mal-être est un poison, en diffusant aussi des discours empreints d'une positivité exacerbée. Mais elles entretiennent la croyance qu'un individu équilibré devrait être constamment serein et performant. À force de présenter l'anxiété, la fatigue ou encore la différence comme des signaux alarmants, les jeunes finissent par redouter de ne pas souffrir de pathologies qui les rendent normaux aux yeux des autres. Le mal-être est donc devenu social et symbolique. Et par le biais des réseaux sociaux, il est devenu diffus, constant, et se renforce au gré de la visibilité des contenus numériques et de la comparaison sociale qu'ils sous-entendent. Ainsi, les jeunes ne fuient plus une menace extérieure, mais un jugement collectif permanent, celui des pairs et celui des algorithmes qui régulent leur image de soi. En définitive, à force de présenter l'anxiété, la fatigue ou encore la différence comme des signaux alarmants, les jeunes finissent par redouter de ne pas souffrir de pathologie. Et donc, selon la théorie de l'apprentissage social, les individus apprennent à se comporter et à se percevoir en observant les autres. Les réseaux sociaux fonctionnent précisément sur ce principe. Chaque image, chaque témoignage agit comme un micro-modèle de comportement, de posture ou d'émotion. Et donc, il y a eu des études qui ont été menées et qui ont été menées pour un petit peu confirmer ce qui existe. Ils sont hyper connectés, les jeunes, et ils ont aiguisé leur jugement sur le corps, sur l'identité, en scrutant la moindre émotion à l'aune de normes virtuelles qui ont été dictées par les réseaux sociaux. Et ils ont développé une espèce d'hypervigilance qui transforme chaque émotion en sujet d'inquiétude. Et cette introspection permanente qui est nourrie par la comparaison, par l'auto-évaluation, eh bien, ça exacerbe en conscience de soi. Est-ce qu'il faudra réapprendre à se sentir bien sans devoir le prouver ? C'est un vrai sujet. La santé mentale des jeunes est un vrai sujet. On l'évoque très peu souvent dans cette émission. Ce n'est pas parce que je ne m'y intéresse pas, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas nécessairement encore beaucoup, beaucoup d'avancées sur ces sujets-là. C'est comme très souvent, quels que soient les cas, quand il faut un temps d'analyse, un temps de recherche pour pouvoir comprendre. Et là, on est sur un phénomène finalement assez récent à l'échelle de l'humanité et même au niveau de l'échelle de la recherche scientifique et médicale. Donc, on commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe et on commence à comprendre qu'il y a une urgence. Et donc de pouvoir poser un petit peu tous les diagnostics pour pouvoir ensuite agir. Mais en tout cas, voilà, il y a de plus en plus d'articles qui commencent à sortir et qui révèlent un petit peu ces difficultés, ces incidences qu'il peut y avoir sur la santé mentale des jeunes. C'est vraiment un constat qui est de plus en plus répandu. C'est la fin de cette émission. Je suis un peu désolé de plomber l'ambiance à la fin, mais bon, on arrive à la fin de cette émission. Bon, on évoquera d'autres sujets peut-être un petit peu plus réjouissants. Ah, peut-être la semaine prochaine, on sera peut-être une émission spéciale animaux. Ça va nous faire plaisir. Ça va être sympa. Ça va. Ah oui, tiens, je vous promets ça. Samedi prochain. Bah, du coup, je compte sur vous. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission de Biotine. D'ici là, bien sûr, vous restez fidèles à l'ensemble des émissions de Graphite sur le 94.9 et sur graphite.net. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.